La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Il arrive parfois qu'un événement survenu juste après la lecture d'un livre se donne à son tour à lire comme une extraordinaire illustration du dit livre. C'est l'expérience que j'ai éprouvée jeudi soir face à la conférence de presse du président de la République. De bout en bout, l'événement m'est apparu comme le symptôme synthétique de la crise protéiforme qu'analyse finement le politiste Gilles Doron-Soro dans le reniement démocratique, l'essai qu'il fait paraître cette semaine, au point que l'on pourrait méthodiquement relier les différents aspects du propos présidentiel, mais aussi plus largement son régime justificatoire, au diagnostic minutieusement posé par ce livre, qui s'avère dès lors un des outils les plus précieux dont nous disposons pour prendre toute la mesure de la gravité de la situation. Son auteur est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Et parmi les expressions du président de la République jeudi soir, l'art d'être français. Je me doute que dans cette deuxième partie de l'émission, nous parlerons de l'art d'être français. Entre autres choses, on en parlera avec Gilles Doron-Soro qui restera avec nous, mais également avec Myriam Marzouki qui est metteur en scène et qui nous rejoindra pour parler notamment de son dernier spectacle Que viennent les barbares. Bonjour Gilles Doron-Soro.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences politiques, professeur en sciences politiques à l'université Paris 1, et d'habitude vous travaillez sur des pays plus ou moins lointains, l'Afghanistan, la Turquie. Vous êtes connu pour ces recherches-là, et là vous faites une incursion dans un territoire qu'on connaît tous un peu mieux, la France, mais pas seulement la France d'ailleurs, d'une certaine façon ce qu'on peut appeler les démocraties occidentales, même si votre propos se focalise beaucoup sur la République française. Avec un essai qu'on peut qualifier d'intervention, qui repose sur des diagnostics, sur une situation de crise, qui ébauche même peut-être quelques stratégies possibles pour, à moyen terme en tout cas, essayer d'en sortir. Comment est né ce livre ? Est-ce qu'il est né, je dirais, de la rencontre entre des outils intellectuels qu'on a forcément quand on est politiste et même quand on travaille sur des réalités sociales et politiques différentes, et puis l'expérience au quotidien face à l'actualité d'un citoyen désemparé face à la manière dont les choses évoluent ?
Alors, c'est d'abord une émotion. L'émotion, c'est d'abord la peur. La peur devant ce qu'on est en train de devenir, et puis une colère assez forte, faut bien le dire, un gros énervement par rapport aux élites intellectuelles, aux élites économiques, qui sont en train de miner notre système démocratique. Voilà. Alors après, pour les points de rencontre entre mon vrai métier, hein, qui est l'analyse des guerres civiles, et cet essai, on pourrait parler de deux points de rencontre principaux. Premier point de rencontre, c'est l'identitaire, puisque j'ai travaillé depuis 25-30 ans maintenant sur des questions identitaires, parce que c'était important dans mes guerres civiles. Et j'avais initialement ce côté un peu naïf et peut-être un peu post-colonial ou colonial. Oui, alors bon, ils sont un peu exotiques, ils sont différents, etc. Puis les années passant, je me suis rendu compte que les Afghans, les Turcs, les Kurdes et le reste fonctionnaient finalement un peu comme nous, et même vraiment comme nous. Et j'ai retrouvé aujourd'hui dans notre société des choses que, en fait, je pensais pas trouver des discours raciaux de plus en plus forts dans l'actualité immédiate. Un début de pogrom contre des Roms à côté de Paris, c'est un peu surprenant. Ça me rappelle un peu trop mes terrains. Donc voilà, il y a eu quelque chose. Et en fait, on dispose des outils intellectuels pour l'analyser. Et le deuxième point de rencontre qui a été proprement fascinant, c'est la guerre néolibérale, c'est-à-dire la façon dont on fait la guerre. En Afghanistan, en Irak, bon, moi mon terrain c'est plutôt l'Afghanistan au départ, et les centaines de milliards de dollars qui ont disparu. On peut considérer cette guerre, ces guerres, comme essentiellement des machines à transformer l'argent public en profit privé. Et de le voir concrètement, de voir le discours du marché, mais les pratiques monopolistiques, le détournement, la captation, tout ça m'a aussi amené à réfléchir un peu à nos systèmes économiques. Voilà, donc c'est les deux points d'accroche. Puis après, bah, y a des lectures, y a un travail habituel de recherche.
Alors il y a un mot qui est important et en même temps qui est un obstacle, c'est le mot de néolibéralisme. On en entend beaucoup parler, ça recouvre une réalité qu'on appréhende plus ou moins bien. Et en même temps, c'est un mot qui pose problème parce que, on peut avoir pour certains tendance à rejeter le libéralisme, ce qui n'est pas sans poser des problèmes pour les libertés publiques en particulier. Et on se rend compte de plus en plus d'ailleurs qu'elles sont menacées à mesure que ce néolibéralisme progresse. Donc on comprend plus grand chose. Vous faites le choix de ne pas rentrer dans ces querelles terminologiques, mais plutôt d'essayer de décrire ce que cette étiquette recouvre et qu'on voit se produire dans différents pays. Les États-Unis vous servent un petit peu de miroir et de laboratoire précurseur. En ce sens, votre réflexion rejoint celle que Wendy Brown, par exemple, a pu mener aussi sur cette question du néolibéralisme, Gilles de Ronsoro.
Alors, on a d'abord ce qu'on pourrait appeler l'idéologie officielle du néolibéralisme, c'est-à-dire l'idée que le marché va permettre une allocation favorable des ressources, l'idée que l'individu est au cœur du système, la méritocratie, voilà. Ça, c'est l'idéologie, et pour plein de raisons, alors tout à fait empiriques, objectives, démontrées, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Quel est l'imbécile qui, aujourd'hui, pourrait, sans sourire, expliquer que les marchés s'autorégulent ? Personne. Hein. Qui aujourd'hui, comme Milton Friedman, dont on souligne pas assez d'ailleurs le côté un peu psychopathe ou sociopathe, voudrait supprimer les agences de médicaments. Voilà. Pour mettre n'importe quel médicament sur le marché en pensant que finalement il va y avoir une autorégulation. Bon, qui, voilà. Et puis vous avez une deuxième chose qui finalement est beaucoup plus centrale pour moi. C'est ce que des gens comme Foucault ou comme Bourdieu ont pressenti dès les années 80. C'est qu'on est devant une transformation des sociétés qu'on peut finalement ramener à deux ou trois phénomènes majeurs. Le premier phénomène, c'est qu'on a de plus en plus de mesures. On mesure tout. On mesure nos comportements, on objective nos comportements. Et le corps, par exemple, est de plus en plus mesuré. Donc le corps devient une forme de capital, comme le capital économique, comme le capital éducatif. Donc ça, c'est une tendance très lourde. Et la deuxième tendance, c'est la diminution de ce qu'on appelle l'autonomie des champs ou des secteurs, enfin un peu comme selon les auteurs de référence. Et cette diminution de l'autonomie des champs, ça se voit dans le champ scientifique notamment, mais dans l'ensemble des secteurs sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gère une entreprise comme une université comme une entreprise, et on n'arrive plus véritablement à dégager des logiques propres. Hein, et je pense que dans le milieu artistique, c'est pas extraordinairement différent. Et donc, on a une perte de sens aussi, hein, puisque tout est ramené à des mesures.
Ça, c'est extrêmement important, pas forcément toujours bien compris, bien partagé plus largement, parce que beaucoup d'acteurs sociaux font comme si, et continue de faire comme si, il y avait une certaine autonomie des sphères d'activité, puisqu'il y a une inertie, qu'il y a des habitudes, qu'il y a des statuts, qu'il y a des choses qui masquent, au fond, les articulations et les interpénétrations qui sont à l'œuvre. Au fond, ce à quoi on assiste, je citais Wendy Brown, je pourrais à nouveau le faire là-dessus, c'est ce que, d'un terme un peu technique, on appelle une dédifférenciation, c'est-à-dire que les sciences sociales se sont inventées à la fin du 19e siècle de façon concomitante avec un processus de différenciation des activités sociales, et elles ont été les premières à documenter ça. On le trouve dans le travail de Durkheim, de Weber, etc. Et aujourd'hui, elles sont confrontées à un phénomène inverse de détricotage, en quelque sorte, de cette structuration des sociétés telle qu'on l'a connue, ce qui est pour le moins troublant.
Alors c'est très troublant, et on le voit dans le fonctionnement de l'expertise notamment, c'est-à-dire la perte des intellectuels, enfin en tout cas des scientifiques, leur perte d'autonomie qui se voit dans les discours d'expertise, hein, en tout cas pour les sciences sociales, c'est absolument marqué. On le voit dans le domaine de l'éducation, je pense que ça c'est probablement une des choses les plus centrales. Vous avez tout un discours un peu romantique sur vous faites un métier formidable, vous êtes enseignant-chercheur, donc vous allez être mal payé, mais vous allez faire quelque chose de très particulier. Voilà. En même temps, la pratique, qu'est-ce que c'est ? C'est des universités qui fonctionnent avec un tiers de précaires, C'est un modèle essentiellement, c'est un modèle économique qu'on retrouve partout. C'est aussi une privatisation accélérée, avec des effets d'inégalité absolument fantastiques, dont les effets réels vont se voir sur la génération suivante, plus que sur la génération actuelle. Et donc on est là devant un modèle d'entreprise, c'est un marché. L'éducation supérieure en France est un marché économique pas si différent des autres finalement. Et donc là, on a une perte d'autonomie aussi. Il n'y a plus de projet collectif sur l'éducation. Bon, voilà. Et tous ces phénomènes mis bout à bout, finalement, ça aboutit à des sociétés ultra-individualistes, ultra-compétitives, mais pas très efficaces. Parce que je pense que s'il y a un thème de l'idéologie néolibérale qu'il faut déconstruire, c'est le thème de l'efficacité. Non, c'est pas efficace. Non, la mise en concurrence systématique n'est pas quelque chose qui va provoquer des effets particulièrement positifs, y compris sur le plan économique. Le mythe de l'autorégulation des marchés aboutit à toutes les catastrophes qu'on connaît. La dernière grande catastrophe, c'est 2008, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut faire fonctionner l'économie, la vraie pensée économique, contre le néolibéralisme. Et ça fonctionne assez bien, puisqu'en fait, on a une convergence assez grande des analyses économiques pour déconstruire tous les mythes néolibéraux, l'effet le trickle-down, donc l'effet de diffusion, de ruissellement, etc., etc. Tout ça, c'est des mythes. Le plus beau mythe de ces dernières années, c'est quand même la flexibilisation du marché du travail pour avoir moins de chômage. Il n'y a pas d'études empiriques qui montrent que ça fonctionne. Et tout ce qu'on a vu comme loi depuis la loi Fillon, donc ça remonte à quelques années maintenant, jusqu'aux dernières lois Pénicaud, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas eu de baisse du chômage empiriquement démontrée parce qu'il y a eu de la flexibilité. Et l'exemple de l'Autriche ou de l'Allemagne montre qu'en fait, il n'y a pas de corrélation claire.
Alors ça, on y viendra, ça nous amène à la question des discours de justification, de l'idéologie vraiment néolibérale, qui est extrêmement intériorisée d'ailleurs, parce qu'on la retrouve reprise à leur compte, malgré eux, en quelque sorte, parfois par des acteurs sociaux qui protestent. C'est le cas du mouvement des Gilets jaunes à bien des égards. Mais vous avez prononcé un mot sur lequel je voudrais qu'on s'arrête, parce qu'il est vraiment au cœur de votre livre, Le reniement démocratique, Gilles de Rossereau, c'est le mot d'inégalité. C'est d'abord sur la base d'un constat très minutieux que vous faites de l'augmentation des inégalités. Et là, vous n'avez pas qu'une approche économique, vous l'élargissez à des inégalités sociales de différents types et une complexité des inégalités, en citant les travaux de Dubé notamment, qui est vraiment le début de ce constat que vous faites. C'est-à-dire que s'il y a un fait majeur à prendre en considération, c'est celui de l'explosion de ces inégalités depuis maintenant une trentaine d'années.
Oui, en fait, je voulais une démarche qui soit matérialiste, marxienne en un sens. C'est-à-dire, je voulais rompre avec le côté un peu enfumage, en fait, tout ça c'est du culturel, c'est identitaire, il y a une inquiétude culturelle, etc. Bon, je voulais rompre avec ces discours qui me semblent pas très fondés empiriquement, et revenir à ce qui est assez simple finalement, et démontrer, encore une fois, c'est des choses qui existent dans la littérature. Bon, c'est un peu technique, mais bon...
Il
y a des chiffres, et il y a deux choses qui sont marquantes. Premièrement, c'est les années 80 qui marquent la rupture. Ça, c'est clair. Et les causalités sont extrêmement complexes. Elles ne sont pas simplement de type mondialisation. Mondialisation, c'est un accélérateur de tout ça. Il y a aussi des évolutions technologiques. Il y a aussi des évolutions politiques et législatives. C'est-à-dire qu'il y a une déconstruction du système de protection qui passe par des lois. Il y a une libéralisation qui est passée par des lois. Donc les causalités sont complexes, mais les effets sont clairs. Augmentation massive des inégalités économiques, mais aussi des inégalités dans l'enseignement. Et là, ce qui est un peu plus de l'ordre de la prévision, en tout cas de l'anticipation, sur le corps. Il y a un investissement massif sur les corps, et cet investissement massif, il est socialement très discriminant. Alors ça se voit sur simplement la morbidité, qui est très variable sur une classe sociale. Et tous ces phénomènes sont importants parce qu'ils sont en phase d'accélération. Ce n'est pas les inégalités qui m'intéressent, c'est l'accélération. Et on parlait tout à l'heure de la fin de l'autonomie des champs sociaux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'argent achète de plus en plus de l'éducation. Bon, c'est un peu résumé, mais c'est quand même ça, fondamentalement.
C'est-à-dire qu'on peut commuer un capital économique en capital scolaire.
Voilà, quand vous avez la scolarité HEC qui vaut près de 50 000 euros, et que les possibilités de bourse sont extrêmement réduites, ben oui, il y a une convertibilité plus forte. Quand vous voyez la corrélation très forte entre les bonnes écoles et le marché de l'immobilier, on sait ce qu'est le marché de l'immobilier, pas simplement à Paris, ben oui, la corrélation devient de plus en plus forte, de plus en plus stricte, la conversion devient plus facile. Et on parlait tout à l'heure de mesures, mais les mesures, ça sert à ça. Les mesures, ça sert à dire, vous avez notamment aux États-Unis, où la législation est plus souple, vous avez tel capital social, ben ça va vous donner tel crédit économique. Et ça, ça vous permet de vous inscrire sur tel site de rencontre matrimoniale ou sexuelle, etc., etc. Donc oui, il y a une convertibilité générale. Et alors là, si vous allez vers le modèle chinois, la convertibilité devient véritablement un système de surveillance. On a pu parler de capitalisme de surveillance, mais le problème de fond, et c'est un peu la thèse, c'est que le capitalisme, dans sa forme actuelle, a de moins en moins besoin de la démocratie.
Alors, ces évolutions, pour rester sur la question des inégalités, ce que vous relevez aussi, c'est que puisque quand on parle d'inégalités, on a bien sûr en général d'abord tendance à s'intéresser à ceux qui sont le plus inégaux, à ceux qui ont le moins, mais le fait social frappant, c'est aussi la sécession de ceux qui ont le plus. Et ça, vous insistez beaucoup là-dessus. Si ghetto il y a, Éric Morin l'avait montré, ce sont des ghettos de riches.
Oui. En fait, il y a quelque chose qui m'agace profondément, en fait. C'est toujours passer, depuis quelques années, toujours mettre la faute sur les plus précaires, les plus marginaux. C'est eux qui, soi-disant, se replient. En fait, tout montre le contraire. Les gens qui se replient, c'est les riches. Parce qu'ils payent finalement beaucoup moins d'impôts que ce qu'ils devraient. Une évasion fiscale massive. Et l'évasion fiscale, à titre individuel, on peut avoir un jugement moral, mais à titre collectif, quand c'est une classe sociale entière qui pratique une évasion fiscale aussi forte, c'est un problème d'aliénation par rapport à sa propre société. Les lieux d'interaction entre, disons, les élites sociales et le reste de la société ont disparu ou disparaissent. Colonies de vacances, les lieux de résidence, les écoles de plus en plus, puisque l'enseignement privé devient un enseignement de classe, ce qu'il n'a pas toujours été, etc., etc. On est devant une sécession, avec une tendance à l'endogamie. On pourrait pratiquement traiter les élites sociales comme une tribu, une ethnie, si on était un peu méchant. Et je crois qu'il y a un fond de vérité là-dedans.
Mais une ethnie internationalisée, remarquez-vous.
En partie internationalisée, mais plutôt sur le mode d'un très fort enracinement qui permet des connexions entre élites nationales. Et pourquoi est-ce que... Et ça, bon, ça nous ramène aux analyses de Wallerstein, de Balibard, il y a longtemps maintenant. Pourquoi ? Parce que peut-être que les grandes fortunes, à l'origine des grandes fortunes, il y a un crime, toujours, comme disait un auteur célèbre, mais il y a aussi un rapport très fort avec l'État. C'est-à-dire que les fortunes se construisent dans des systèmes de rente qui passent par l'État, par le juridique. Et donc, je crois que ce qui serait profondément faux, c'est de penser l'internationalisation réelle de cette classe, de cette élite économique, comme un phénomène déconnecté des États. C'est pas anti-État. C'est profondément appuyé sur l'État. On va même pas mentionner les sociétés d'autoroute, la Française des Jeux et le reste, mais effectivement, l'État, ces dernières décennies, s'est dessaisi progressivement de son capital économique. Ça, il y a un appauvrissement massif de l'État, et pas uniquement en France, c'est un phénomène mondial. Et les élites qui ont profité de ces dérégulations sont des élites qui sont, en ce sens, très marquées, très, très situées socialement, dans un État spécifique.
C'est traduit aussi, ou c'est rendu possible aussi, par une plus grande porosité entre le public et le privé, au point que récemment, Antoine Vaucher et Pierre France montraient à quel point l'État lui-même est incapable de faire sa propre cartographie. Les frontières qui séparent normalement le public du privé, il est de plus en plus difficile de les matérialiser parce que il existe non plus des administrations centrales avec des directions, des sous-directions, des bureaux, des sous-bureaux, etc., mais des tas d'agences, d'organismes mixtes, et la circulation des personnes à l'intérieur de ces structures aussi favorise cette très grande porosité.
Oui, et l'ouvrage que vous citez est important parce qu'il montre aussi la difficulté à comprendre ces mécanismes, qui sont des mécanismes extrêmement techniques. Hein, parce qu'ils travaillent sur les cabinets d'affaires.
Voilà, eux, ils l'ont montré sur un secteur, mais voilà. On pourrait faire l'hypothèse que ça marche dans bien d'autres domaines.
Et donc, c'est là que les sciences sociales sont utiles. C'est parce qu'on montre concrètement sur des phénomènes complexes, en lisant une littérature parfaitement indigeste, en fait, où est le pouvoir. Bon. Et... ça permet de déconstruire l'idée que l'État serait profondément démuni par rapport à la mondialisation, qu'il y aurait une nature des choses. Et en fait, non. En fait, ce sont des élites qui ont très consciemment déconstruit le système. Alors, comment ? Bon, passage privé-public. Il y a une extraordinaire flexibilité du passage de l'un à l'autre avec des conflits d'intérêts majeurs. Si les cabinets d'affaires recrutent des énarques, évidemment, c'est pour leurs compétences, leur réseau, leur carnet d'adresses, mais ça pose un problème de conflit d'intérêts majeur. Or, il n'y a pas de régulation réelle des conflits d'intérêts. Quand on voit que l'État progressivement abandonne ses compétences dans des secteurs stratégiques, on a un problème majeur, c'est que les gens qui vont faire les analyses, les gens qui vont mettre au point la stratégie pour des grands projets, etc., ce sont des cabinets privés. Et ce ne sont pas des cabinets privés avec une très forte concurrence, parce qu'en fait, c'est un quasi-monopole, enfin un oligopole, il y a 4-5 entreprises qui travaillent là-dessus. Donc l'État se dessaisit de ses compétences, l'État sous-traite de plus en plus, pratique une décharge qui n'est pas forcément très rentable, et on aboutit finalement un État néolibéral dont, comme par hasard, les politiques vont avantager les classes supérieures qui sont déjà celles qui profitent le plus de la sécurité, de l'éducation, etc. Donc le système devient circulaire et l'État est de moins en moins perçu comme le garant de l'intérêt général et de plus en plus comme un État de classe. Voilà, des énarques dont l'origine sociale est de plus en plus marquée, un système politique, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais dont aussi le Parlement français aujourd'hui, oui, le Parlement français, la République en marche, les députés viennent des classes supérieures, beaucoup plus qu'il y a 30 ans. Et donc, voilà, on est un système où, comme par hasard, à un moment donné, on a une crise politique.
Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait tout un discours de naturalisation qui accompagne ce changement, au fond, où les choses sont présentées comme allant de soi, comme une évolution inéluctable. Et ce qui est frappant, c'est la puissance de ce discours dont on peut retrouver des traces, y compris dans les mouvements de protestation face à cette crise. Par exemple, on peut observer que sur les ronds-points, dans ces mobilisations de gilets jaunes, l'entreprise avait disparu. L'État est devenu le seul adversaire désigné, tout en étant en même temps valorisé pour ses services publics, dans une forme de contradiction qu'un certain nombre de commentateurs ont eu du mal à saisir. Mais ce qui est frappant, c'est que le chômage n'est pas constitué comme une question importante de ce mouvement, comme si un certain nombre de citoyens qui pourtant étaient mobilisés avaient peu à peu accepté l'idée que il y avait des choses qui étaient qu'il y avait une priorité nationale, que pour faire baisser le chômage, il fallait faire baisser les charges, que donc les entreprises, elles faisaient ce qu'elles pouvaient, etc. Moi, j'ai été frappé par l'absence de cette dimension économique, au fond, ce qui explique aussi peut-être le fait que les syndicats n'aient pas eu à jouer un rôle dans cette situation, Gilles de Ronsoro.
Oui, on vit sur quelques mythes. Le premier mythe, c'est que l'immigration créerait du chômage, que l'immigration créerait des réactions de rejet. Or, en fait, on voit que dans les endroits effectivement où vous avez beaucoup d'immigrés, bon, la concentration s'explique pour des raisons assez mécaniques. Bon, vous n'avez pas plus de vote Front National ou Rassemblement National. Vous en avez plutôt moins depuis les années 80. Donc déjà, on est sur une espèce de système incohérent. C'est que à la fois, toutes les analyses économiques montrent qu'on a besoin de plus d'immigrés. On n'a pas besoin de 3 millions d'immigrés en un an. On a besoin d'un afflux régulier.
Les projections démographiques par rapport aux retraites, par exemple.
Voilà, c'est évident. Les pays qui refusent l'immigration, pensez à certains pays du Nord, notamment les Pays-Bas, se trouvent devant des véritables crises économiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens.
Ou le Japon, bientôt.
Alors le Japon, eux, ils sont en train de perdre, ils perdent plusieurs centaines de milliers d'habitants par an, et eux, ils sont dans une crise qui est déjà une crise très avancée, qui va aussi avec un refus de la sexualité, qui pose encore d'autres problèmes. Deuxième mythe, l'impôt, ou les prélèvements obligatoires, de manière plus juste, casserait la croissance. Or, la phase majeure d'accroissement des prélèvements obligatoires, c'est les années 60-70, là où on avait une croissance extrêmement forte. Donc non, la relation n'est pas mécanique. Il y a en fait des prélèvements obligatoires qui sont entre 40 et 45% à partir des années 80. Il y a une montée récente, mais c'est essentiellement dû à la crise de 2008. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que l'augmentation des prélèvements obligatoires, c'est d'abord des dépenses de santé. C'est-à-dire que quand on regarde la différence française, qui n'est pas tellement que les prélèvements obligatoires sont supérieurs, parce qu'en fait, il y a plus de services de l'État, mais plutôt qu'il y a une plus forte dépense collective sur la santé. Alors, quand on demande aux gens s'ils veulent moins de sécurité sociale, la réponse est plutôt non. Donc, il faut aussi repenser la question des prélèvements obligatoires par rapport à, et là, je crois que Macron a fait un petit effort dans ce sens-là, les niches fiscales, 100 milliards, 20 milliards que perd la sécurité sociale parce que il y a une partie du patronat qui paye, qui déclare pas. On a à peu près 350, 360 milliards, 15% du PIB qui sont dans des paradis fiscaux. Voilà, là on a des vrais problèmes sociaux lourds et on ne sait pas vraiment comment les régler parce qu'il n'y a pas de volonté politique, comme le montre le fait que les entreprises sont de moins en moins contrôlées par le fisc. Il y a eu un démantèlement conscient de la part de l'État des moyens de faire rendre l'impôt, c'est-à-dire les agents du fisc.
Alors évidemment, les conséquences de cette situation, elles sont politiques et ce sont des conséquences assez inquiétante s'agissant du régime qu'on appelle la démocratie. On va avoir l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de l'émission pour laquelle nous rejoindra Myriam Marzouki. Mais ce sera après un extrait du troisième album de Aldous Harding, Designer.
What's your angle with that visionary shimmer? A strange thing to roll out a spell. Alamode. Tears water the flowers of need. And you bend my day at the knee. Sit down, we'll frame the far side. Shapes live forever. Designer.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
La suite dans les idées, deuxième partie, nous parlons du reniement démocratique. C'est le titre du livre de Gilles Doron-Soro qui est aujourd'hui l'invité de l'émission. Et Myriam Marzouki nous rejoint pour cette seconde partie. Myriam Marzouki est metteur en scène de théâtre et elle vient de créer à la Maison de la Culture, à la MC 93, je crois que c'était les premières représentations, Que viennent les barbares, un spectacle qui tourne, qui sera présenté dans le cadre du Festival Théâtre en mai à Dijon, les 27 au 29 mai. Et dans ce spectacle, vous vous interrogez, vous reprenez un certain nombre de questions, d'ailleurs pour certaines d'entre elles, que vous avez déjà abordées dans des spectacles précédents et qui font écho un peu aux réflexions de Gilles Doron-Soro et notamment des questions autour de l'identité. Je démarrais cette émission en écho à la conférence de presse du président de la République et en parlant de l'art d'être français. On se demande effectivement, cette conférence de presse était censée être en réponse au mouvement des Gilets jaunes, un mouvement qui a frappé par le fait qu'il n'interrogeait pas tellement ces questions identitaires Et néanmoins, comme il l'avait fait en décembre, le président de la République a remis sur le tapis la question de l'identité à travers la loi de 1905, par exemple, à travers l'idée de reprendre une grande politique de l'immigration, d'en dessiner les contours. Voilà deux éléments de réponse à des questions qui ne lui étaient pas posées. C'est assez symptomatique, Myriam Marzouki, de la façon dont cette question ressurgit en permanence.
Oui, c'est ce que vous dites, Gilles de Rosoreau, dans le livre, en rappelant qu'il y a une manière, qui peut être un art très français aussi, ou un art de l'époque, de transformer des questions sociales et économiques en questions identitaires. Et c'est en effet ce que fait Emmanuel Macron lorsqu'il parle de l'art d'être français, puisque ça suppose qu'il y aurait une sorte de talent individuel, de génie propre, des sujets à être français, alors que moi je crois, enfin c'est aussi ce qui a guidé le travail de ce spectacle et puis du précédent, qu'il y a aussi tout un art collectif, des techniques, des récits, des images, des imaginaires, des mythologies qui font qu'on va identifier ou ne pas identifier certains comme faisant partie du nous, du corps collectif. Et c'est vrai que là, pour Que viennent les barbares, avec Sébastien Lepauvin qui est co-auteur du texte, nous avons justement essayé de travailler sur l'art de percevoir ou de ne pas percevoir certains de nos concitoyens comme étant français. Et je me retrouve aussi beaucoup dans ce que disait Gilles de Ronzoreau sur le point de départ de son travail donc de chercheur, et ce qui a été finalement le point de départ aussi de mon travail de metteur en scène et de notre travail d'auteur. Vous avez parlé d'émotion, de colère.
De peur, puis de colère.
De peur, puis de colère, de gros énervements. Et je crois que ces deux émotions fondamentales que sont la colère et la peur, eh bien, elles engagent aussi beaucoup de gestes artistiques, je crois. D'ailleurs, dans le spectacle, un des personnages, qui est une fonctionnaire qu'on a imaginé, fonctionnaire de l'ONFUI, qui est l'Office National Français Universel de l'Intégration Totale, cette femme qui représente les mantras, les mythologies républicaines, après avoir eu une série de rencontres un peu désagréables avec quelques personnes qui viennent lui réclamer des choses, à la fin du spectacle, elle dit, entre la colère et la peur, j'aimerais une place. Et je crois qu'on en est beaucoup aujourd'hui à chercher une place pour chacun, à chercher la place du nous collectif entre la colère et la peur. Et c'est effectivement le sentiment qu'il y avait ces deux émotions fortes qui traversent aujourd'hui la société française qu'on a écrit ce spectacle et que je l'ai mis en scène.
Gilles de Ronsoreau, sur la question de peut-être des émotions au départ, mais sur la question du recours à l'identité, à cette question identitaire comme discours de justification et de naturalisation au fond du néolibéralisme, parce que c'est comme ça que vous présentez la question. D'ailleurs, vous l'abordez dans un chapitre qui tourne autour du verbe justifier. Votre livre est construit autour de cinq verbes comme ça, et au fond, ces figures de l'étranger, de l'immigré, qui d'ailleurs peuvent être des gens qui sont nés en France, qui sont pas du tout étrangers, au sens administratif, juridique du terme, elles jouent un rôle. Il y a un usage stratégique, et on l'a vu encore une fois avec la remise sur l'agenda de questions, par le haut. C'est pas des demandes des citoyens français.
Oui. Peut-être que ce qui m'a frappé le plus, c'est que la volonté de racialiser, de tout voir par l'identitaire, c'est d'abord quelque chose qui vient des élites, beaucoup plus que de la population française, qui finalement est dans la négociation, le compromis, l'adaptation, enfin la vie assez telle qu'elle est réellement. Et notamment, ce qui m'a beaucoup surpris depuis quoi, une vingtaine d'années, c'est l'usage systématique de thématiques qui viennent des États-Unis, en fait, hein, qui sont les thématiques de l'extrême droite américaine, qu'on retrouve chez des gens comme Zemmour, Finkielkraut, etc. Et c'est la thématique du racisme anti-blanc. Hein. On retrouve en Inde aussi, d'ailleurs, assez curieusement. C'est pas quelque chose qui est spécifique à un pays. Et c'est donc le complexe du majoritaire qui se sent agressé par une minorité. Évidemment, dans notre cas à nous, le principe, enfin, ce qui est le dispositif qui permet de travailler ça, c'est par exemple la laïcité. Hein. Vous avez des choses absolument fabuleuses. Tous les tenants de la grande laïcité qui nous expliquent un modèle français de la laïcité sont les premiers à remettre eux-mêmes en cause la laïcité. Et comment ils le remettent en cause, ce modèle? C'est la France a des origines chrétiennes, etc. Bon, la France est un pays chrétien.
Et puis c'était les mêmes enfin pour ceux qui sont suffisamment âgés, qu'on trouvait dans la rue en 1984 à Versailles, manifestant
voilà.
Contre la laïcité.
Contre la laïcité. Donc, il y a quelque chose, la laïcité est un très beau dispositif de ce point de vue-là, parce que ça permet véritablement de faire taire ses propres contradictions. Il y a laïcité, alors donc, il y a aussi la racialisation du discours, c'est les mêmes qui nous expliquent qu'il faut une république indivisible, et bon, pour prendre l'exemple de Finkielkraut, qui regarde l'enterrement de Johnny Hallyday, et qui note la race, c'est-à-dire le phénotype, il n'y a pas beaucoup de bronzés, de noirs, et du coup, les sous-chiens sont absents, voilà, c'est le propre mot. Donc du coup, on se dit, mais, et c'est le même qui nous explique qu'il faut une république indivisible, laïque, etc. Donc on voit que le dispositif de laïcité, ça fonctionne essentiellement comme une façon de discriminer. On voit aussi qu'il y a une vision du peuple comme étant blanc. Le vrai peuple de France serait blanc, alors qu'en fait, historiquement, le peuple, et surtout les classes populaires, sont plus mélangées. Parce que simplement, quand les immigrés arrivent, bon, en général, ils sont pauvres, et donc ils sont dans les ils font partie des classes populaires. Et il n'y a qu'à voir très concrètement l'origine des noms, enfin les noms, etc. Bon, on voit bien d'où vient le métissage. Et donc, on a un discours qui s'est énormément racialisé, mais c'est un racialisme dédominant, et ça permet effectivement d'avoir une haine contre le peuple qui est socialement un peu plus acceptable, parce qu'effectivement, vous pouvez dire « mort aux musulmans mais mort aux pauvres », ça se dit dans certains films, « salaud de pauvres », mais c'est plus difficile socialement à accepter. Et voilà le mécanisme, il n'est pas très compliqué finalement.
Myriam Marzouki, comment vous avez conçu à travers les dispositifs à la fois d'écriture et de mise en scène l'articulation de cette dimension identitaire, je mets des guillemets, et sociale?
Nous, on a essayé de travailler sur les récits qui manquent, hein, et les figures absentes. Je crois que il y a peut-être des ambitions communes au travail intellectuel et au travail artistique, mais ce qui les diffère, ce sont les moyens. Et nous, nous avons des incarnations sensibles, des interprètes au plateau qui vont rendre sensible, peut-être rendre visible ce que la démarche savante peut rendre visible par l'écriture, mais nous, on rend visible par la possibilité de produire des récits incarnés. Et donc, c'est ce qu'on a cherché à faire, c'est-à-dire raconter ces récits, ces figures qui permettent de, pour reprendre l'expression que Boucheron reprend à Michelet, que ce ne serait pas trop de raconter la France à partir de l'histoire du monde. Bon, et donc, finalement, dans notre spectacle, on a des personnages qui viennent des États-Unis des années 60, James Baldwin ou Mohamed Ali. On a également des fantômes du passé comme Jean Sénac, poète algérien, ou Jean-Baptiste Bellay, méconnu, premier député noir de la République française en 1794, Claude Lévi-Strauss également, qui passe par là et qui est complètement réinventé, puis des personnages de fiction. Et nous avons, en faisant ces allers-retours avec le passé, en mettant l'histoire par-dessus tête, en adoptant l'anachronisme comme principe d'écriture poétique, cherché à rendre sensible et visible des possibilités de vie, des incarnations de ceux qui ont fait la France, et qui nous renvoient à une question collective qui est: quels sont les imaginaires, les récits qui font que nous percevons collectivement, assez spontanément, en effet, le citoyen français comme étant un citoyen blanc, majoritairement. Alors qu'en effet, cette question de la couleur de peau, mais aussi du nom, du patronyme, de la religion, de l'appartenance régionale, c'est quelque chose qui a été largement recouvert. Donc nous, on a cherché avec les moyens de la fiction, une fiction documentée, mais avec des éléments d'absurde, d'anachronisme, de poésie au plateau, à réouvrir en fait cette question identitaire, parce que elle est extrêmement crispée effectivement sur des inquiétudes. Nous, on pense qu'il faut l'aborder de manière radicale, joyeuse, mais sans être dans l'activation des inquiétudes.
Alors, on le voit, le théâtre peut, comme les sciences sociales, permettre de mieux comprendre la situation dans laquelle on est, mais peut aussi permettre d'ouvrir peut-être des pistes, d'inventer des imaginaires ou des représentations plus en phase avec un progressisme. Vous utilisez le mot, Gilles de Rosoreau, même si ce mot lui aussi a été préempté par ce discours néolibéral.
Oui, alors oui, les mots sont un peu compliqués toujours, mais c'est plus finalement ce qu'on fait et la façon dont on cherche à se mobiliser qui est importante. Je crois qu'il y a une place pour l'action. Il y a, bon, de toute façon, parce que si on le fait pas, on est responsable par rapport à notre génération, par rapport aux générations futures. Donc il y a une responsabilité politique. Les arts sont évidemment un champ de bataille, mais je crois que le mot de champ de bataille n'est pas de trop, comme les médias. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les artistes, il n'y a pas les journalistes, il n'y a pas les universitaires. À l'intérieur, tous ces groupes sociaux sont profondément divisés. Et donc, je crois que la première chose à faire, c'est de savoir que c'est une lutte et d'arrêter d'être dans une espèce de compromis raisonnable avec des idées que je pense sont profondément dangereuses. Il faut arrêter de dire, par exemple, il y a des populismes. Non, il n'y a pas de populisme. C'est pas un concept qui est opérationnel. Je m'excuse pour certains de mes collègues qui y tiennent, mais il y a une extrême droite extrêmement virulente, forte, qui a réussi à complètement décloisonner son discours, hein, parce qu'aujourd'hui, ce que dit Laurent Wauquiez, c'est fondamentalement un discours d'extrême droite, c'est le discours du grand remplacement, c'est Renaud Camus, enfin, c'est fondamentalement ça, face à une gauche qui s'est effondrée, une extrême gauche qui a fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire qu'il y a eu un bip, un sursaut, et puis elle s'est effondrée. Voilà, c'est ça.
Et puis il y a même des, entre guillemets, populismes de gauche qui pensent qu'il faudrait emprunter à l'extrême droite un certain nombre de thèmes pour gagner des élections. Vous en prenez notamment un Chantal Mouffe dans ce livre, au passage.
Oui, au passage, c'est plutôt un coup de patte, parce que c'est sur la fin, j'ai plus tellement le temps de développer, mais c'est pas très sérieux. Hein. L'idée que le peuple serait forcément réac, nationaliste et vaguement raciste, je crois que c'est pas, en plus, c'est pas ce que disent simplement les études. Hein. Quand on regarde des questions qui sont un peu symboliques sur l'homosexualité, la pratique religieuse, etc., il n'y a pas de tournant à droite majeur, évident, de l'opinion.
Au contraire, il y a même une évolution lente et progressive.
Sur certaines questions, très clairement, sur d'autres, c'est plus complexe, mais en tout cas, non, c'est pas fondé. Et même si ça l'était, je ne vais pas devenir facho, simplement parce qu'une majeure partie des classes populaires le serait devenu, ce qui est faux. Donc voilà, donc je pense qu'il y a aussi un problème de rectitude morale par rapport à ça.
Myriam Marzouki.
Oui, sur ce point, je voulais donner à titre d'exemple la réaction des professionnels d'une part et du public d'autre part sur le spectacle précédent que j'avais fait autour des perceptions du voile, ce qui nous regarde. Spectacle qui a tourné en région parisienne mais aussi en province. Hein, et ce qui était très étonnant, c'est qu'un spectacle qui a été créé et qui a tourné un peu plus proche des attentats de 2015 et de cette période très compliquée, a été extrêmement bien reçu partout où nous l'avons joué, avec des réactions du public qui recevaient ce discours nuancé, apaisant, polémique, mais qui n'était pas dans l'agression, comme un spectacle qui pouvait faire avancer chacun, déstabiliser chacun, déplacer chacun de ses certitudes. En revanche, du point de vue des institutions, des programmateurs, de ce qu'on pourrait appeler des élites, il y avait beaucoup, beaucoup plus d'inquiétudes, beaucoup plus de frayeurs à programmer, et certains étaient surpris de la réaction de leur public. Donc moi, je crois qu'il y a une maturité aussi de la société, une manière d'avancer dans une forme de tranquillité dans, en effet, les métissages qui se constatent dans les cours de récréation, etc. Et le public de théâtre est capable de recevoir des choses dont, en revanche, les responsables institutionnels vont avoir beaucoup plus peur. Et donc ça rejoint, je trouve, ce que vous disiez sur la manière dont les choses se fabriquent d'en haut, beaucoup plus qu'elles ne viennent d'en bas.
Alors, c'est le public du festival Théâtre en mai qui aura la chance de recevoir ce spectacle Que viennent les barbares, programmé du 27 au 29 mai. On trouve la référence sur la page de la suite dans les idées. On trouve sur le site de France Culture, on trouvera évidemment la référence du livre dont nous parlions aujourd'hui de Gilles Doron-Soreau, Le reniement démocratique, néolibéralisme et injustice sociale, qui paraît aux éditions Fayard dans la collection Raison de plus. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Chouchane Djergaillan. À la technique aujourd'hui, Sébastien Royer. À la réalisation, Anne Pérez Franchini. Et dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture.